qui êtes rassemblés dans ce temple, quels que soient vos chemins de vie, vos chemins de quête, vos chemins de foi, vous êtes bienvenus et vous êtes ici chez vous. Je vous invite à entrer dans la louange dans laquelle Grégory va nous conduire et nous pouvons nous lever.
Pour ceux qui te en répandant ton amour dans le monde, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux humains, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent les yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur humain, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Éternel, nous te louons. Amen.
Nous prions avant d'ouvrir les Écritures et de lire. Dieu fidèle, tu viens sans cesse à notre rencontre. Ne permets pas que nos vies s'endorment dans la routine, mais par ton esprit, que ta parole réveille notre foi. Et tiens-nous debout et vigilants dans l'écoute de la parole et dans le service des vivants. Amen. Nous lirons deux textes ce matin, le premier dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 18 à 25. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Et puis dans la Bible hébraïque, au livre de l'Ecclésiaste, dit aussi Coëlette, nous lirons au chapitre 11 les versets 1 à 8. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont remplis de pluie, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est au lieu où l'arbre est tombé qu'il restera. Qui observe le vent ne sème pas. Qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ne sais pas d'où vient le souffle, où les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un comme l'autre sont également bons. La lumière est douce. Il est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc quelqu'un vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres sont nombreux. Tout ce qui arrive n'est que futilité, vanité. C'est parce qu'il y a 10 jours, lors du partage biblique et théologique de jeudi soir, nous avons parlé du livre de Coëlette et c'est ce qui m'a conduit à vous proposer ce texte aujourd'hui. Jette ton pain à la surface des eaux, plus tard tu le retrouveras. Et voici une exhortation bien étrange parmi tant d'autres paroles bien étranges de Coëlette, l'Ecclésiaste, celui que Martin Luther appelait le prédicateur, dont le nom hébreu Coëlette n'est pas tant un nom qu'une fonction, le rassembleur, un mot hébreu auquel fait écho le mot grec d'ecclésiaste, qui ne signifie pas du tout ecclésiastique, mais celui qui appelle, celui qui réunit. Y a-t-il donc un risque ou une situation de dispersion, de séparation, de division, de fragmentation? Il n'est certes pas question là de l'éparpillement des uns et des autres pendant la période estivale. Mais il suffit de regarder autour de nous et d'écouter pour constater les déchirures, les repliements sur soi ou sur ses semblables. Combien la société est divisée, non pas diverse, ce qui est une bonne chose, mais divisée dans des oppositions qui ne dialoguent pas, pas toujours, qui ne débattent pas, qui s'ignorent ou s'invectivent entre rapports de force ou indifférence. Et il semble bien que la crise provoquée par le coronavirus et les conséquences de cette crise, les conséquences du confinement, la crise sanitaire, la crise écologique, la crise sociale qui précédait déjà, tout cela ajouté à la crise écologique, ajouté depuis tant d'années, tout cela exacerbe les divisions et les crispations des postures. Devant l'avenir, ces risques, ces incertitudes, y compris à court terme, l'angoisse monte pour nombre de nos contemporains. De quoi pouvons-nous être certains? Sur quoi s'assurer afin de prévoir un minimum pour demain? Entre aléas de la nature et conséquences de décisions humaines que nous n'avons pas toujours prises nous-mêmes ou que nous avons suivies sans en discerner forcément les implications, eh bien, beaucoup sont désemparés et inquiets, plus qu'inquiets, en proie à une appréhension profonde, sourde ou manifeste. Nous avons si brutalement fait l'expérience de la fragilité de notre condition, à la fois tous ensemble et séparément, chacun chez soi. Nous avons été tellement abreuvés d'hypothèses, parfois, même souvent, assénés comme des certitudes, d'informations et d'injonctions parfois contradictoires. La science ne résout pas tout, la technologie ne suffit pas, la puissance qui fait la fierté des humains s'est trouvée ébranlée. Nous ne dominons pas ce qui arrive, nous ne connaissons pas tout d'aujourd'hui et encore moins de demain, et il a fallu se le dire, il a fallu le regarder en face, même si le désir de domination, de maîtrise remonte vite en surface, en déni ou en réassurance, en théorie du complot ou en recroquevillement sur un tout petit espace, mais pour avoir enfin le sentiment de maîtriser quelque chose, pour se sentir un peu vivant. Jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, tu le retrouveras. Mais alors quoi? À quoi Coëlette engage-t-il ses lecteurs? Au gaspillage? Certainement pas. À une sorte de pari positif? Je jette le pain sur l'eau pour pouvoir le retrouver plus tard quand j'aurai besoin? Il y a quelques beaux contes sur ce thème, mais s'il en est un qui ne raconte pas d'histoire et qui ne se fait pas d'illusions, c'est bien Coëlette. Peut-être un calcul de prévoyance? Je donne du pain pour que quelqu'un m'en donne plus tard? Une sorte de placement dans l'espoir d'un retour sur investissement, en quelque sorte? Un vague cousinage avec le gérant malhonnête de la parabole de l'évangile de Luc, qui se fait des amis avec l'argent de son maître afin qu'il lui vienne en aide quand il aura perdu son travail? Sauf que Coëlette ne dit pas de donner son pain aux pauvres, ni à personne d'ailleurs, mais de le jeter à la surface des eaux. L'angoisse de l'avenir, la fragilité de l'humain, le désir de tout dominer, Coëlette les connaît bien. Ce sont des attitudes et des sentiments intemporels, même s'ils sont toujours incarnés dans des personnes, dans des époques et des circonstances bien précises. Coëlette, pour sa part, écrit dans une période, semble-t-il, pleine de perturbations et d'effondrements. Une dynastie, celle des Ptolémées, qui domine en Judée suite à l'héritage d'Alexandre le Grand, cette dynastie est à bout de souffle, le dernier roi se prend pour un descendant de Dionysos, il enchaîne les orgies, il se défie de tous, sauf de quelques très proches, et lorsqu'il meurt subitement, il ne reste qu'un petit enfant, un enfant de 5 ans. Placé sur le trône, et évidemment le pouvoir revient des tuteurs, mais des tuteurs sanguinaires qui amplifient la répression violente jusqu'à ce que la population et l'armée se soulèvent contre eux. Il n'y a plus d'autorité, seulement les armes, et un enfant de 5 ans, mais un roi absolument impuissant. Alors bien sûr, dans le territoire voisin, celui des Séleucides, autres héritiers d'Alexandre, eh bien, on n'attend que l'occasion de s'emparer de la Judée pour agrandir territoire et puissance, ce que les Séleucides ne vont pas tarder à mettre en œuvre. L'angoisse de l'avenir, la fragilité de l'existence humaine, le désir de domination, ne pas savoir, Coëlette connaît très bien cela. Il les exprime avec des images très ordinaires et même évidentes, presque des banalités, dirait-on, du genre proverbe d'un bon sens commun, accessible à tous. Tu ne sais pas ce qui sera malheur sur la terre. Nous pouvons connaître certaines réalités, certaines constantes, mais nous ne savons pas ce qui va advenir. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir entre adversité, injustice et paradoxe. Tu ne sais pas la route du vent, ni l'ossification dans le ventre de la femme enceinte. Même si aujourd'hui nous en savons un peu plus sur les processus de formation d'un fœtus, nous ne savons toujours pas de quelle manière le souffle de la parole passera en lui ou en la femme qui le mettra au monde pour qu'il devienne un humain, pour qu'elle devienne une mère. Nous nous souvenons aussi de ce que Jésus dit à Nicodème en parlant de l'Esprit-Saint. Tu ne sais d'où vient le vent, ni où il va. Cette métaphore du vent est persistante. Tu ne sais pas ce que Dieu fait, dit encore Coëlette. Sauf à se prendre pour Dieu. Nous avons médité sur cette tentation dimanche dernier. Et se déprendre d'un savoir sur Dieu est bien plus délicat que d'engranger, de s'accrocher à ce savoir qui n'en est jamais un. Seulement, on ne dira jamais assez à quel point ce non-savoir sur Dieu est libérateur. Tu ne sais pas ce qui sera bon, ceci ou cela, ou les deux à la fois. Alors quoi, ne rien faire ? Au cas où cela tournerait mal, même avec la meilleure intention du monde. Renoncer devant la complexité de l'existence et ses ambiguïtés constitutives. Non, ce n'est pas cela dont parle Coëlette. En situation d'angoisse, d'incertitude, de vulnérabilité, face à ce que nous ne pouvons changer, modifier, hein, l'arbre, là où l'arbre est tombé, là il reste, Coëlette ne prêche pas l'abandon, le défaitisme ou l'inaction. Il ne prêche pas non plus l'activisme qui n'est qu'une autre face de l'angoisse. Jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, tu le retrouveras. Il y a là un appel au courage et à l'engagement. Mais qu'est-ce que c'est que jeter son pain à la surface des eaux ? Si Coëlette avait un livre de chevet, ce devait être le livre de la Genèse. Tout son livre est adossé au premier chapitre de la Genèse. Nous connaissons tous ce petit refrain de Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité, ou buée, ou fumée, ou vapeur, ou Abel, le frère de Caïn, À l'existence si brève, tuée par son frère et qui ne laisse rien sur terre sinon son sang qui crie. Abel, cela signifie littéralement buée, fumée, vapeur, ce qui ne demeure pas, qui ne se retient pas, éphémère, transitoire, fugace, insaisissable, futile, traduit la Nouvelle Bible Second, même vain et même parfois rien. Et de nombreux textes de la Bible hébraïque comme du Nouveau Testament exhortent à discerner ce qui est vain, afin de ne pas y accrocher, afin de ne pas y confier nos existences. Ces quelques versets du chapitre 11 sont quant à eux imprégnés du vocabulaire du premier chapitre de la Genèse, le chant de la création. C'est là que nous lisons la mention de la surface des eaux. C'est-à-dire ce qui n'est pas ordonné, ce qui n'est pas différencié, ce qui n'est pas nommé par la parole créatrice. La surface des eaux, c'est le chaos, le lieu de tous les dangers, de tous les risques, face auquel, au milieu duquel, l'humain est toujours trop vulnérable, trop démuni, s'il n'y a pas la parole qui fait sens. Et ce sens, Coëlette l'exprime à sa manière, comme il l'a comprise dans son monde bouleversé, « Jette ton pain à la surface des eaux ». Dans ce désordre, dans ce chaos, dans cette agitation d'angoisse et d'incertitude, « Jette ton pain, lance ton pain », pas le pain de farine, bien sûr. Le pain, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait vivre. Et ce qui nous nourrit, véritablement. Ce qui nous fait vivre, véritablement, ce qui nous fait vivant comme humains, nous le savons, avec un peu de lucidité, nous l'éprouvons. C'est la confiance, la bonté, l'amour, la compassion, la grâce. Tout ce que nous avons reçu et recevons d'autres personnes, et que nous recevons aussi par le souffle divin, don de Dieu qui nous rende capables à notre tour d'être confiants, aimants, compatissants, solidaires. Cela n'est pas à nous. Si nous le considérions comme une possession, tout disparaîtrait, comme buée, fumée, vanité. Cela n'est pas de nous. Si nous pensions en être à l'origine, ce ne serait qu'éphémère, dérisoire, vanité. Mais cela est en nous, véritablement don, promesse inconditionnelle. Et c'est cela que nous sommes appelés à jeter, à lancer dans le monde agité, complexe, labouré d'injustice et de douleur. Nous sommes appelés à ne pas garder pour nous ce qui nous fait vivre, mais à le faire passer. Et c'est cela même, être vivant. Faire passer, faire circuler ce qui fait vivre. Ce passage, cette circulation, cette dynamique, c'est la vie même. Et c'est à cette action délibérée et obstinée que Coëlette nous exhorte. Ne pas savoir et pourtant vivre. Agir ainsi. Et si du bon advient, c'est ainsi qu'il advient, dans cette persévérance de la générosité de laisser passer, de jeter, de semer sans relâche, du matin au soir, sans calculer, sans parcimonie, ce que nous avons reçu de vitalité, de vital. Et nous n'en sommes pas privés. Rien de ce que nous laissons passer ainsi à travers nous ne nous manquera quand nous le jetons, si nous le jetons dans le champ du monde, à la surface de l'eau. Mais si rien de cela n'est jeté, si rien de cela n'est lancé, il n'y a pas de vie. Il n'y a que vanité, buée, vapeur, fumée qui ne nourrissent personne. Donne part à 7 et même à 8. Coëlette excelle à évoquer Dieu sans avoir besoin de répéter un nom ou un titre. Part à 7 et même à 8. Plénitude et même au-delà. À l'image de ce Dieu qui œuvre pendant 7 jours, chante la Genèse, et dont l'œuvre est aussi de faire place à ce qui est créé. Dieu qui œuvre encore au-delà du 7e jour, avec un 8e jour que le Christ vivant inaugure au matin de Pâques. Quelle que soit la date de ce jour où un humain, par la confiance, est relevé de l'emprise de la mort sur son existence. Et son existence devient alors, par ses actes et paroles, même modestes, célébration de la puissance de la vie. Malgré l'ignorance, la fragilité, l'angoisse, et en assumant aussi les échecs, les paroles de Coëlette tracent encore pour nous aujourd'hui un optimisme de vie vivante. Et cela semble un peu fou. Cela semble même complètement fou dans l'époque où nous vivons. Mais ce n'est pas plus fou que la folie de Dieu, celle que Paul affirme dans la communauté de Corinthe empêtrée dans la vanité de disputes de préséance et d'auto-justification. Même sans assurance, même sans savoir, même sans maîtrise de l'avenir, il y a un maintenant, il y a un présent d'être, un présent reçu par grâce, par bonté, par bienveillance divine, un présent qui est dynamique de grâce, de bonté et de bienveillance. Nous ne perdrons rien, nous ne perdrons pas nos vies à jeter ce pain à la surface des eaux, à semer du matin au soir ce qui nourrit la vie des vivants. Nous ne perdrons rien à prendre part à une œuvre de lumière, une douce lumière, celle qui, première créée, chante la Genèse, éclaire le cœur, l'âme, l'esprit, l'être. La lumière qui permet de discerner ce qui est vanité et ce qui fait sens, ce qui est bon et ce qui est malheur, dans tout ce qui est apparent sous le soleil. Nous pouvons faire cela pour nos contemporains, semer parmi eux, jeter parmi eux ce qui permet d'être vivant, la confiance, la bonté, l'amour, la compassion, la solidarité, la grâce, la part divine qui est en nous. Nous pouvons le faire car telle est notre vocation. Et même si certains n'en veulent pas, continuez, persévérez, car ce n'est pas l'efficacité, cette grande vanité qui nous motive et nous met à l'ouvrage. C'est la confiance. La confiance que là seulement se tient le sens par lequel les êtres et le monde reçoivent leur forme, leur densité et leur plénitude. Il y aura des jours de ténèbres, parole de Coëlette, mais chaque jour, réjouis-toi d'être cet homme, cette femme, vivant, capable de partager ce qui te fait vivre. Amen. Voici le moment de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever pour entendre ce texte que Grégory va dire.
Nous croyons en Dieu, puissance de vie, d'amour et d'être élan créateur qui traverse tout l'univers. Nous croyons en Jésus-Christ qui a révélé cette présence de Dieu auprès de tous les hommes, sa compassion, sa puissance de vie, d'amour et d'être. Il a lutté pour l'amour, pour la justice, jusqu'à y perdre sa vie. Nous croyons que nous pouvons nous aussi être animés par l'Esprit Créateur, peuple marchant d'un même pas, vivant ainsi pleinement et aimant de tout notre cœur, engagé dans la vie de l'humanité et uni par l'élan créateur qui traverse tout l'univers. Amen.
Et nous chanterons cantique 284, les trois strophes, ta volonté, Seigneur mon Dieu. Quelques annonces. D'abord, des remerciements à Philippe Grivard qui est venu aujourd'hui nous accompagner à l'orgue, qui a bien accepté au début de la semaine, à la demande de Fred Rivoal, de venir afin que ce dernier culte ne soit pas sans musique et sans orgue, puisque c'est le dernier culte de l'été au foyer de l'âme. Le temple sera fermé jusqu'au dimanche 6 septembre. Et pendant le mois d'août, eh bien, vous pouvez aller dans d'autres lieux de culte. Par exemple, l'oratoire est assez grand pour accueillir aussi les paroissiens du foyer de l'âme ou d'autres paroisses et temples que vous connaissez. Ce mardi à 14h, il y aura le dernier partage biblique et théologique de l'été sur le thème de l'amour. Et mercredi à 19h30, la dernière pause spirituelle de l'été également. Il n'y aura pas de partage biblique et théologique ce jeudi soir. D'autres annonces, d'abord pour vous dire que Dominique Jaulme, l'ami que nous connaissons, propose des places dans sa voiture pour revenir de l'Assemblée du désert. Si jamais vous y allez en train et que vous voulez revenir autrement, eh bien Dominique a des places dans sa voiture, donc si vous êtes intéressé, merci de me le signaler à la sortie du culte. Et puis donc, quelques mots déjà sur le mois de septembre pour que vous ayez en tête deux dates importantes. Le dimanche 13 septembre qui sera le culte de rentrée avec l'accueil des enfants d'école biblique et de catéchisme. Et puis aussi à ce culte de rentrée, un baptême et deux confirmations de catéchumènes qui n'ont pas pu avoir lieu au printemps. Donc ce sera le 13 septembre. Et puis le 20 septembre, le dimanche suivant, ce sera l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle, reportée également à cause du confinement. Donc le 20 septembre à 11h, un culte à 10h30, et puis à 11h, l'Assemblée Générale. Mais vous retrouverez toutes ces informations et d'autres encore dans le bulletin de septembre qui vous sera envoyé à la fin du mois d'août. Il y a encore quelques brochures, les recueils des textes des cultes conférences de 2020 sur le thème « Je ne sais pas ». Donc elles sont disponibles au prix de 10 euros. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? D'autres annonces? D'autres choses à partager? Eh bien alors, c'est le moment de rassembler notre offrande d'un geste de louange, de confession de foi, mais surtout d'un geste libre. Nous nous rassemblons dans l'intercession avec cette prière qui est une réécriture, une actualisation du Notre Père. Toi qui es aux cieux, au cœur de notre espérance, que ton nom ne soit point profané, que nous ayons le courage de te nommer, de te dire promesse de libération. Que ton règne vienne nous rejoindre ici et maintenant, pour que ta volonté soit faite, pour que nous ayons l'audace de lutter contre l'oppression. Dans nos cœurs, dans nos rues, dans nos relations entre hommes et femmes, dans nos corps, dans notre église, dans nos lieux de travail, dans nos complicités avec les causes de la crise, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain pétri dans la souffrance, ce pain qui nous appelle à devenir tes fils et tes filles, ce pain qui alimente notre audace. Toi qui es notre amour, pardonne-nous nos infidélités profondes, nos incohérences, nos connivences avec l'injustice. Car c'est le pardon reçu qui nous permet petit à petit de nous ouvrir à ceux et celles qui nous ont meurtris. Ne nous soumets pas à la tentation. La tentation de nous prendre pour les tout-puissants. La tentation de consentir à fabriquer des outils de mort pour asservir la nature et l'être humain. Toi qui es notre amour, sois avec nous pour nous apprendre les chemins de la délivrance, la libération du mal. Car c'est en toi que nous reconnaissons l'espérance d'une terre nouvelle. Amen. Et nous chanterons au cantique numéro 252, les strophes 1, 3 et 4. Grand Dieu, nous te bénissions, nous nous levons pour chanter. Je vous invite à repartir avec une dernière parole biblique, une exhortation du livre du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme et femme, ce qui est bon et ce que le Seigneur réclame de toi. C'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Chers amis, allez simplement, gaiement, aimablement, courageusement. L'esprit de vie et de joie vous accompagne. Allez avec la force que vous avez. L'Éternel, notre Dieu, est avec vous. Amen.